Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
Salut
Charles. Écoute, t'as publié un livre, toi, La face cachée du multiculturalisme, où tu mets en question le credo, la religion du multiculturalisme. Ça peut être vu chez certaines personnes comme étant un refus de la diversité, t'es contre l'immigration, etc. Puis là, tu pourrais toi aussi être censuré, un peu comme Mathieu l'a été cette semaine. Ton livre aussi pourrait être mis à l'index par l'Association des libraires.
Tout à fait. Peut-être qu'il s'agirait d'être un peu plus connu, plus stigmatisé, d'autant plus que le livre, en plus, a été publié aux mêmes éditions que L'Empire du politiquement correct, aux éditions du Cerf en France. Bon, peut-être qu'il ferait l'association, je sais pas. Mais quelle histoire terrible, qui me surprend pas, par exemple, parce que vraiment, on assiste à une radicalisation du mouvement woke, là, du mouvement éveillé, la bien-pensance, que j'appelle maintenant la bien-monstrance. Hein, les vertueux qui n'en finissent plus de nous montrer leurs vertus. C'est terrible, mais en même temps, c'est très, très révélateur. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience par rapport à ça? Parce que c'est quand même incroyable. S'il y a une institution, si on peut appeler ça une institution, les libraires là, au Québec ou ailleurs, si une institution qui devrait porter le flambeau de la liberté d'expression, au moins de la liberté artistique, tout ça, c'est sûrement les libraires. Là. Il me semble que c'est quand même incroyable. Donc, il y a quelque chose, il y a une incohérence fondamentale. Être libraire et cacher des livres, parce que moi, j'ai déjà entendu qu'on cachait des livres au Québec, Richard, dans les librairies. Là.
Ben oui, des livres qui sont mal vus, qui sont écrits par des gens toxiques, supposément toxiques. Écoute, comme toi, moi je pense qu'il y a deux institutions qui devraient être les gardiens de la liberté d'expression, ce sont les librairies et les universités. Or là, le cancer de la rectitude politique est en train de gangréner ces deux institutions-là, où on parle de censure à l'université et dans les librairies.
Oui, je pense qu'on pourra rajouter une institution importante pour la liberté d'expression, les médias, les universités, les librairies, effectivement, oui. C'est probablement les trois. Mais écoute, vraiment, moi j'ai déjà entendu des histoires d'auteurs dits de droite là, dont les livres n'avaient pas été mis en vitrine ou qui avaient littéralement été cachés par des membres du personnel dans des librairies québécoises. Et là, ça relevait pas d'une décision de la direction. Ce sont des employés sur le plancher qui ont, par exemple, pris mon livre là, et qui l'ont placé, ils l'ont caché. Écoute, il n'était plus visible. J'ai déjà entendu ça pour la publication de mon premier livre. J'ai pas réentendu cette histoire-là, heureusement, mais c'est quand même, tu sais, c'est une histoire qu'on peut entendre au Québec là, depuis quelques années. Donc, ce qui arrive à notre ami Mathieu Bocoté, ben c'est que c'est le paroxysme de cette logique de censure qui est un point culminant. Et on parle quand même du premier ministre du Québec, là, et donc qui se retrouve aussi partiellement censuré.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ben oui, tout à fait. Et Jérôme, faut le rappeler, hein, pour ceux qui le savent pas, toi, t'avais été sorti manu militari d'un bar, dans le quartier latin ici, fréquenté par l'avenir de la crème, l'avenir de l'élite, les étudiants de l'UQAM qui étaient là. Fait que toi, tu penses que t'es en terrain protégé. Là, c'est des universitaires qui vont là et prennent une petite bière en lisant leurs livres et tout ça. Et on t'a reconnu, puis on t'a dit, tu n'es pas bienvenu dans ce haut lieu de la culture pour te crisser dehors.
Ah, le climat est extrêmement malsain. Ça remonte à 2017, cette histoire-là. Oui, quelque chose comme ça, au 2018, enfin, printemps 2018. Je souligne quand même que la Commission des droits de la personne a jugé que ça brimait mes droits. Là. Donc, la Commission des droits de la personne m'a donné raison lors d'une décision, si on peut appeler ça comme ça. Donc, au moins, il y a une certaine justice en ce monde, Richard. Je sais pas. Est-ce que le premier ministre québécois va réagir à ça? Ça serait étonnant quand même. Bon.
Non, ils ont dit seulement qu'ils étaient déçus. Ils ont réagi comme du bout des lèvres, alors que selon moi, ça pose des questions de liberté d'expression. Et moi, je m'attendrais à un moment donné à ce que la CAQ arrive avec un projet de loi défendant la liberté d'expression, entre autres sur les campus.
Oui, tout à fait. Ça prend des mesures concrètes, plus que des chartes et des énoncés de principes. Mais ça rappelle quand même l'histoire de Trump, qui, malgré toutes les conneries qu'il peut dire, lors de la soirée électorale, c'est quand même le président des États-Unis, même aussi fou soit-il, là, qui a été censuré par des grands médias. Donc, d'après moi, ça a été précurseur aussi de ce qu'on assiste. Si tu peux censurer le président des États-Unis, tu peux très certainement censurer le premier ministre du Québec. Donc, il y a comme un renversement du pouvoir. Les militants woke sont prêts à tout. Ils sont convaincus d'incarner le progrès, la vertu, et tout ce qui va, tout ce qui cadre pas avec leur idéologie, ben c'est du fascisme, c'est de la xénophobie, et puis ils sont prêts à tout. Donc c'est vraiment incroyable. Il y a un renversement du pouvoir, et c'est ça, la pyramide s'est inversée. C'est eux qui finalement décident de ce qui est légitime, de ce qui est pas légitime, quitte à rendre un premier ministre québécois à en faire un indésirable lui-même. C'est assez incroyable.
Oui. Écoute, je vais te parler de l'antiracisme. C'est Alain Finkielkraut, le philosophe français, qui dit que l'antiracisme est un train qui a plus de frein, qui déraille, qui est hystérique. Bon, on voit ce qui s'est passé en France. Ce producteur là, de disques noirs qui a été tabassé de façon absolument immonde par 4 flics qui étaient visiblement racistes. Il y a un combat contre le racisme à mener. Ça, c'en est un combat là, contre la violence contre les Noirs. Mais on dirait que des fois, là, ils se perdent là, dans toutes sortes de labyrinthes abscons. Tu sais, quand on dit là, que ici au Québec, la langue française est la langue de l'oppresseur blanc, là, c'est un combat antiraciste niaiseux.
Ben, c'est que nos antiracistes créent plus de divisions qu'ils en atténuent. Là. C'est ça le problème. La manière qu'ils s'expriment, par exemple, ce fameux humoriste, très, 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 entre guillemets, humoriste, là, Renzel Dashington, dont je pense que tu as entendu parler de lui, Richard, en fin de semaine, peut-être. Donc, pour le rappeler, bon, c'est le fameux humoriste là, qui a fait une vidéo très, très... très, très dégradante là, pour ta femme et toi, Richard Martineau, donc Sophie Durocher, Richard Martineau. Donc, un propos puéril, tout ça, enfantin, misogyne hein, aussi.
Très misogyne, donc, des insultes à caractère sexuel qui disait à ma blonde qu'elle rêvait de coucher avec des Noirs, puis que moi, j'étais un enculé, puis tout ça, misogyne. Tu sais, n'importe quoi, là, mais sous prétexte qu'il est noir. As-tu entendu quelqu'un, toi, du milieu intellectuel ou médiatique ou artistique appuyer ma blonde là-dedans? Et très peu. Et non, toi, Mathieu, quelques-uns.
La réaction, en fait, l'absence de réaction de la classe médiatique, la bonne classe médiatique, est aussi gênante que la vidéo en soi. Là. Quand j'écoutais la vidéo, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'écoutes la vidéo d'un psychopathe ou je sais pas trop. Elle savait pas trop parce que c'est très, très malaisant comme vidéo. Quand j'écris sur Facebook, je me la suis infligée. Là, c'est vraiment, écoute, c'est pour faire passer ça pour de l'humour, c'est impressionnant. Donc, ben, le courant antiraciste propulse n'importe quel uluberlu qui lui se dit il suffit qu'une personne soit de la bonne couleur de peau pour devenir un grand spécialiste de la question coloniale, de l'antiracisme. Donc, Renzel Dashington, c'est un bon exemple de ça. C'est une dérive. Et quand tu l'écoutes parler, ben justement, sa manière, Richard, de catégoriser les gens, tu sais, c'est les Blancs. Là, il dit, bon, ta femme rêve de coucher avec des Arabes, des Noirs. Tu sais, c'est un discours qui est extrêmement clivant, beaucoup plus que celui, tant qu'à moi, même d'une certaine extrême droite fantasmée. Là.
Ben oui.
Il parle avec des catégories raciales comme ça allait de soi.
Ben t'imagines s'il avait dit ça à propos de Rimmel Coury, s'il avait dit ça à propos de Rilly Langto, s'il avait dit ça à propos là, de gens de gauche. Tous les gens auraient dit c'est dégueulasse, mais quand t'es de droite, t'as le droit de te faire insulter, tu l'as cherché.
Ah oui, non, mais cette vidéo-là, sérieux, c'est un point tournant, là, dans le sens où de voir que quelqu'un peut tenir des propos assez sacs à caractère sexuel, misogyne, et de pas se faire taper sur les doigts. Gabriel Nadeau-Dubois est invité à son podcast. Là. Tu vois, le gars, il s'enclame. Et qu'est-ce qu'il va, est-ce qu'il va dénoncer la vidéo? Non, c'est silence radio pour le moment. Donc, comment dire, c'est vraiment, c'est très, très particulier. Et c'est aussi dans la culture rap, là, tu sais, depuis longtemps, bon, les certains rappeurs afro-américains peuvent dire n'importe quoi dans leurs chansons. Oui. Ils sont jamais accusés de racisme ou de misogynie. Parce que vraiment, le ton de ce résine d'Ashington-là, c'est vraiment un ton dégradant.
Mais c'est un humoriste pseudo-humoriste blanc avait tenu ces propos-là à propos d'une femme noire en disant « Tu rêves de te faire baiser par un blanc. » Ça aurait été épouvantable. Il y aurait eu une levée des boucliers. Ici, c'est un noir. Ah, il a le droit parce qu'il est noir. C'est incroyable.
Ah non, t'aurais plus de carrière, là, Richard. Non. Un truc comme ça, là, c'est clair que... Il n'y a aucun blanc dans l'espace médiatique qui aurait une carrière après la publication de ce genre de vidéos-là, où il suffirait d'inverser, c'est ça, 10 blancs en place de noir, puis ta carrière vient de se terminer. C'est aussi simple que ça.
Ça n'a pas de sens. Ça montre à quel point ce mouvement-là est dévoyé et a perdu ses repères.
Ah oui, complètement. Puis cette obsession des catégories là, qu'on retrouve dans les médias anglo-saxons, je suis abonné par exemple au Globe and Mail pour suivre l'évolution de la politique étrangère canadienne parce qu'ils ont une bonne couverture de ça. Puis pour prendre aussi le pouls du Canada anglais progressiste en général. Et la tendance des médias anglo-saxons à catégoriser les gens constamment, c'est toujours des topos les noirs, les blancs, les autochtones, les asiatiques. Oui, c'est vrai là qu'il y a des certains clivages raciaux qui persistent dans nos sociétés, qui sont hérités peut-être de la colonisation. Mais est-ce qu'on peut parler aussi des Canadiens des fois? Tu sais, on crée des catégories qui sont si étanches. T'sais, c'est une sorte de zoologie. T'sais, au nom de l'antiracisme, on tombe dans une espèce de logique zoologique là où les humains sont catégorisés en fonction de leur race. C'est vraiment
exactement
une obsession.
Ben oui, c'est une obsession. Ils voient de la race partout. Ben écoute, merci entre autres pour ton appui, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine.
Avec plaisir. Salut, Charles.
Salut.